VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahman Dia, à la présentation de cette édition de 17h30 TU. On est le 28 juin 2017 au sommaire. L'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo inquiète le gouverneur du Nord Kivu qui craint une nouvelle guerre dans la région.
Quand vous vous rendez compte de comment ils ont opéré pour faire libérer les 930 prisonniers à la prison centrale de Kangwaï. Et donc, ce sont vraiment des attaques organisées. C'est pourquoi le gouverneur de la province du Nord Kivu a dit qu'en tout cas, il craint que ce soit de nouvelles rébellions en gestation.
Arrestation au Gabon d'un opposant qui avait menacé de faire exploser des bâtiments à Libreville. Au Niger, le gouvernement veut évaluer le niveau des enseignants contractuels. Et une nouvelle cyberattaque d'envergure touche l'Europe. Plus de 2000 utilisateurs sont concernés. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, un autre camp de l'armée congolaise a été attaqué près de la cité de Nyamilima, aux abords du parc de Virunga ce matin. Un militaire a été grièvement blessé. Julien Paluku, le gouverneur de cette province, a lancé hier une alerte sur l'éventualité d'une nouvelle guerre. Correspondance de Charlie Kasereka depuis Goma.
La société civile du Nord Kivu avait déjà alerté sur la formation de cette coalition de plusieurs groupes armés Mai Mai. Certains y avaient même associé la rébellion rwandaise des FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Plusieurs attaques ont été signalées dans la partie nord de la province du Nord Kivu au courant de ce mois de juin. Le gouverneur Julien Paluku vient d'alerter l'état-major de l'armée congolaise dans une interview accordée à la radio onisienne en RDC. Pour lui, ces récentes attaques sont l'œuvre d'une rébellion qui est bien soutenue vu leur mode opérationnel et les armes utilisées dans les accrochages avec l'armée loyaliste. Le gouverneur Julien Paluku souligne que ces indices montrent bien qu'il y a une nouvelle guerre qui pointe à l'horizon dans sa province et longtemps mercée par de multiples guerres ethniques et d'intérêts politiques. Depuis le début de ce mois de juin, dans ces différentes attaques, plusieurs combattants Mai Mai ont été tués et d'autres capturés par l'armée congolaise qui a aussi perdu au moins 5 éléments dans les territoires de Lubero et dans la région de Beni. Tous ces événements interviennent après l'évasion de plus de 900 prisonniers à la grande prison de Beni, où la plupart des évadés étaient inculpés pour participation au mouvement rebelle. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Nous reviendrons sur cette situation au Nord Kivu dans la partie magazine de cette édition. Au Gabon, le procureur de la République a placé hier soir en détention préventive un opposant et ex-candidat à la dernière présidentielle. Il avait menacé mi-juin de faire exploser des bâtiments à Libreville si le président Ali Bongo ne quittait pas le pouvoir dans les 72 heures. Le point avec Eric Manirakiza.
Roland Désiré Abaminko a été inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, d'incitation à la révolte et de diffusion de fausses nouvelles pour troubler l'ordre public. Son ancien directeur de campagne, Gu Arlen Nang Ango, est aussi en détention préventive. Soutien à Jinping, M. Abaminko avait enjoint le président Ali Bongo de quitter le pouvoir dans les 72 heures, affirmant avoir miné tous les bâtiments administratifs et ministériels et menacé de les faire exploser. Le 16 juin, ces hommes s'étaient introduits avec des armes blanches dans les locaux de plusieurs médias publics et privés pour diffuser son message appelant à la déstabilisation des institutions. Selon le procureur, il a reconnu les faits et assume les conséquences.
Au Niger, le gouvernement se dit déterminé à évaluer le niveau de quelque 60 000 enseignants contractuels soupçonnés de ne pas avoir les qualifications requises. Ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Enseignement Daouda Mamadou Marté. Une étude diligentée par les autorités nigériennes a révélé que 11,5% des enseignants des écoles primaires ont un niveau très mauvais. Et 50% des élèves du cours préparatoire lisent à peine une lettre de l'alphabet. La justice zimbabwéenne a ordonné la libération sous caution de l'opposant Evan Mwarire, deux jours après son arrestation, pour avoir soutenu une grève d'étudiants en médecine à Harare, la capitale. Les explications de Nathalie Barche.
Le magistrat qui a ordonné la libération sous caution du pasteur Ivan Mawarire et d'un étudiant leur a ordonné de se présenter tous les vendredis à la police. Des dizaines d'étudiants s'étaient rassemblés lundi sur le campus de l'université à Harare, protestant contre l'augmentation des frais de scolarité. Le pasteur Mawarire avait lancé début 2016 une campagne pour dénoncer les conditions de vie de la population. Ces vidéos avaient déclenché des grèves et des manifestations. En juillet dernier, il était parti en Afrique du Sud, puis aux États-Unis. Il a été interpellé une première fois le 1er février à l'aéroport d'Harare, alors qu'il revenait au pays et a été inculpé de tentative de sabotage. Mis en liberté sous caution le 8 février, Ivan Mawarire n'a pas encore été jugé pour cette inculpation.
La version générique du médicament le plus avancé contre le virus du VIH-Sida a été introduite au Kenya, une première en Afrique où plus de 25 millions de personnes souffrent du Sida. Le DTG est disponible sur le marché depuis quelques années et est déjà largement utilisé dans les pays développés, mais son prix restait souvent trop élevé pour être acheté dans le cadre de programmes de lutte contre le Sida dans des pays africains. Une boîte de 30 pilules de DTG coûtait jusqu'à présent entre 25 et 50 dollars, et la version générique coûte 4 dollars. Au Maroc, près de 80 policiers ont été blessés ces deux derniers jours dans des heurts avec des manifestants dans le nord du pays, mais le bilan du côté des protestataires n'est pas encore connu. Les manifestants réclament la libération des détenus du mouvement de contestation qui revendique le développement de la région du Rif. Le roi Mohamed VI s'est plaint en Conseil des ministres du retard dans l'exécution des programmes de développement. Le Soudan n'est pas une menace pour la sécurité des États-Unis. Cette déclaration d'un responsable soudanais fait suite à la décision de la Cour suprême américaine de réinstaurer partiellement le décret migratoire du président Trump. La loi interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 6 pays musulmans, la Syrie, la Libye, l'Iran, le Soudan, la Somalie et le Yémen, s'appliquera à quiconque venant de ces 6 pays n'ayant pas établi de relations de bonne foi avec une personne ou une entité aux États-Unis.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La cyberattaque mondiale au ransomware démarrée en Ukraine et en Russie semble contenue aujourd'hui après avoir touché des milliers d'ordinateurs. Plus de 2000 utilisateurs ont été concernés, essentiellement en Ukraine et en Russie. Les explications de Salwa Jafari.
À Kiev, plusieurs banques et guichets automatiques sont toujours fermés au lendemain d'une cyberattaque globale. Les services de métro, la poste, ont redémarré petit à petit leur activité après une interruption de 14 heures. Le virus qui bloque des ordinateurs jusqu'au paiement d'une rançon de 300 dollars en monnaie virtuelle a affecté entre autres les contrôles sur le site de l'accident nucléaire de Tchernobyl, le port de Bombay et des bureaux de multinationales dans le monde entier. Jérôme Billois est expert en cybersécurité.
La cause la plus probable est que le système d'exploitation, le logiciel des entreprises ciblées, n'était pas à jour et qu'il y avait des vulnérabilités de sécurité dans ce logiciel.
Selon Microsoft, la vague d'attaques utilise plusieurs techniques pour se propager, et notamment une faille de Windows pour laquelle le groupe avait déjà diffusé un correctif. Une cyberattaque d'envergure pourrait entraîner le déclenchement de l'article 5 du traité de l'OTAN, en vertu duquel une attaque contre un des pays membres est considérée comme une attaque contre tous, a averti le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, James Stoltenberg.
L'avertissement émis par le président américain Donald Trump contre une nouvelle attaque chimique en Syrie a été pris au sérieux par le régime de Bachar el-Assad. C'est ce qu'a affirmé son secrétaire à la défense Jim Mattis. Les États-Unis ont accusé le régime syrien de préparer une nouvelle attaque chimique et se sont dit prêts à riposter comme ils l'avaient fait après une attaque chimique présumée à Khan Sheikhoun qui a fait au moins 88 morts début avril. Au moins 30 civils ont été tués ce mercredi dans des frappes aériennes contre une localité syrienne tenue par le groupe État islamique dans l'est de la Syrie. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'OSDH n'était pas en mesure de préciser d'où venaient les avions qui ont mené ces frappes deux jours après un raid meurtrier de la coalition dirigée par Washington contre une prison tenue par le groupe État islamique. Le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a entamé la construction d'une nouvelle zone tampon le long de la frontière sud avec l'Égypte, alors que le mouvement cherche à améliorer ses liens avec le Caire. Cette zone de sécurité large de 100 mètres s'étendra sur 12 kilomètres le long de la frontière entre l'enclave palestinienne et l'Égypte et sera équipée de caméras de surveillance et de postes militaires. Ce sera une zone militaire fermée et il sera donc plus facile de surveiller la frontière et d'empêcher le trafic de drogue et les infiltrations, a déclaré un responsable du Hamas. L'armée ukrainienne a affirmé avoir tué un officier russe et avoir fait prisonnier un soldat russe lors de combats avec les rebelles séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Mais Moscou a démenti que la personne capturée soit un militaire russe. Plus de 10 000 personnes, civiles et militaires des deux camps, ont trouvé la mort dans l'est de l'Ukraine depuis 2014. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement les rebelles de l'est ukrainien, ce que Moscou dément avec véhémence. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Jacques Aristide.
Plus de 10 000 entreprises chinoises opèrent en Afrique, soit 4 fois plus que les estimations disponibles jusqu'ici, d'après un rapport du cabinet américain McKinsey publié aujourd'hui. 90% de ces entreprises sont privées, prouvant ainsi que l'importante présence économique de la Chine sur le continent n'est pas dominée par les investissements du gouvernement de Pékin. Elles opèrent dans le commerce, la construction, l'immobilier et les secteurs manufacturiers et des services et ont créé plusieurs millions d'emplois pour les Africains, selon le document. L'État ivoirien et la Banque mondiale ont signé hier un accord de financement pour améliorer l'infrastructure économique dans les villes de Bouaké et San Pedro afin d'accroître leur compétitivité et pour faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, en particulier dans l'agroalimentaire. Le projet, qui sera étendu à d'autres villes de l'intérieur d'ici 2020, sera financé à hauteur de 73 milliards de francs CFA. Abidjan y contribuera 5 milliards. Le Ghana demande au Fonds monétaire international de prolonger son plan d'aide de 918 millions de dollars jusqu'en décembre 2018, soit au-delà du délai d'avril, afin de rassurer les investisseurs et stabiliser l'économie. Le FMI se dit favorable à une telle prorogation si elle est nécessaire pour atteindre les objectifs économiques fixés.
Et à présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Abdulrazak Alfaga en demi-finale du championnat du monde de taekwondo.
Effectivement, le Nigérien vient d'accéder à la demi-finale du championnat du monde de taekwondo à Moudjou, en Corée du Sud. Abdulrazak Alfaga a su placer un Malien au premier combat avant de s'imposer contre un Français puis un Brésilien dans la catégorie de plus de 87 kilos. Alfaga vise le titre de champion du monde après sa médaille d'argent décrochée lors des JO 2016 à Rio. Il avait remporté l'or aux Jeux africains de Brazzaville en 2015. Abdulrazak Alfaga va affronter en demi-finale l'autre orgue du taekwondo africain, le Gabonais Anthony Obam. Les demi-finales auront lieu cette nuit.
Coupe des Confédérations, Portugal-Chili pour la première demi-finale.
Oui, un choc à Kazan entre le champion d'Europe et le vainqueur de la Copa América. Coup d'envoi 18h temps universel. La Seleção portugaise est favorite, emmenée par Cristiano Ronaldo, auteur de 2 buts en 3 rencontres. En face, l'Aurora sud-américaine joue cette compétition à fond avec la présence de ses cadres. Le gardien Claudio Bravo et ses 113 sélections, le milieu Arturo Vidal et l'attaquant vedette Alexis Sanchez. Une opposition de style et un duel de stars à suivre donc dans un quart d'heure.
Deuxième journée de la Coupe COSAFA dans le groupe B.
Oui, Madagascar et le Zimbabwe viennent de se neutraliser, 0-0. Les deux formations restent leaders du groupe avec 4 points chacun. Les mal classés, le Mozambique et Seychelles jouent aussi ce soir.
Et on termine par les transferts.
Le Sénégalais Adama Mbeng s'est engagé avec le stade Malherbe de Caen pour 4 ans. Au transfert, le latéral gauche international burkinabé, Yacouba Koulibaly, 22 ans, a rejoint le Havre en deuxième division française. Il a évolué la saison écoulée au Racing Club du Burkina Faso, un club burkinabé.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. La situation sécuritaire est préoccupante au Nord Kivu. Les attaques à répétition dans certaines zones de la région et la nouvelle rébellion en gestation laissent encore croire à une nouvelle guerre qui se prépare dans l'est de la République démocratique du Congo. Solange Nyamulisa a joint Thomas Dakin Mouiti, le président de la coordination provinciale de la société civile Force Vive au Nord Kivu.
La situation sécuritaire est volatile au Nord Kivu. En date du 25 mai passé, il y a eu le M23 qui a fait appel à certains jeunes regroupés dans des groupes armés. Après cette réunion, il y a des opérations de grande envergure qui se font, plus particulièrement dans la frontière entre l'Ouganda et le Nord Kivu. Cette situation se présente également dans les villes comme Goma, Butembo, où il y a un activisme accru de la criminalité. Il y a des tueries aussi dans certains des villages de Massissi, Rutshuru. La situation continue à être également préoccupante et avec les phénomènes de kidnapping qui prend de l'ampleur, sans oublier aussi les cas isolés dans les territoires comme Walikale.
Est-ce que ces attaques sont organisées?
Ce sont des attaques qui deviennent de plus en plus systématiques. Pour l'unique semaine qui vient de s'achever, on attaque Kabasha, un village qui se situe entre la ville de Beni et la ville de Butembo, après la prison centrale de Beni, Kangwai. Après, on attaque la ville et après, on attaque la frontière de Kasindi et on attaque un autre village vers Oicha. Et si c'était de Maïmaï, il n'allait pas tenir pendant plus de 3 heures aux éléments FRDC. Nous pensons que c'est quelque chose de préparé, d'organisé, de structuré. Quand vous vous rendez compte de comment ils ont opéré pour faire libérer les 930 prisonniers à la prison centrale de Kangwai. Et donc, ce sont vraiment des attaques organisées. C'est pourquoi le gouverneur de la province du Nord Kivu a dit qu'en tout cas, il craint que ce soit de nouvelles rébellions en gestation. Et nous, à la société civile, après avoir compris qu'il y a eu réunion en Ouganda avec certains groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, nous pensons que c'est vraiment une nouvelle rébellion qui est en train de naître.
Y aurait-il un risque d'embrasement?
Il y a risque puisqu'il y a certains jeunes Maïmaï qui ne sont pas d'accord avec ce genre de choses. Il y a également les pays voisins qui sont en train de soutenir. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord parmi les Congolais. Et donc, cette manière de faire, même si il y avait des jeunes Congolais qui ont des revendications légitimes, qui ont des mécanismes qu'on peut utiliser pour revendiquer certaines choses au pays et ne pas se servir des armes puisque c'est la population qui en paie le pot cassé et nous, on n'est pas d'accord avec ça.
C'était Thomas Dakin Mouiti, président de la coordination provinciale de la société civile Force Vive au Nord Kivu.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer l'émission interactive À votre avis ce mercredi à 18h temps universel sur VOA Afrique. Que pensez-vous des dialogues politiques en Afrique? Sont-ils efficaces et permettent-ils une amélioration du climat politique? À votre avis, le choix des médiateurs est-il déterminant? Pour participer, laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez en direct au 001 202 205 26 33 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les populations de certains quartiers de Boaké ont du mal à s'approvisionner en eau courante. Coupures intempestives ou parfois jugées impropres à la consommation. Les abonnés de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire sont dans le désarroi. Unique entreprise chargée de la distribution de l'eau courante dans tout le pays, la SODECI est accusée d'offrir une piètre qualité de service à ses clients. De Boaké, le reportage de notre correspondant Siri Kibaro.
À Boaké, plus de 43 000 familles ont recours au service de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, pour leurs besoins en eau courante. une eau quasi inexistante des robinets de plusieurs abonnés en raison des fréquentes coupures. Et lorsque ce liquide précieux s'écoule enfin des robinets, sa qualité est fortement remise en cause par les populations.
Madame Canet a mis, je vends l'eau glacée, il y a fréquemment des coupures d'eau. Souvent même ça sent l'odeur de l'eau de Javel.
Madame Sangare Meka, l'eau n'est vraiment pas du tout propre. L'eau est rouge et puis elle dégage une forte odeur.
Couché Olivier, tu te lèves un matin, tu dis non que l'eau est coupée, parce que tu n'es pas compte de ce que tu n'as pas été informé. La coupure se fait selon leur vouloir. Une fois vous recueillez l'eau et que vous gardez, quelques minutes après, vous avez une couche qui se pose dans le fond du récipient dans lequel vous prenez l'eau.
Face aux nombreuses critiques et au mécontentement avéré de leurs abonnés, Kwadio Nguessan Konan, directeur régional de la SODECI, fait des mises au point.
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la variation de la couleur de l'eau sur le réseau. Il y a souvent la couleur blanchâtre. La couleur blanchâtre, c'est les prises d'air qui, quand l'eau se repose, devient parfaitement claire, donc sans conséquence pour la consommation. Au niveau de la couleur rougeâtre, elle apparaît généralement quand on a des ruptures sur le réseau, des ruptures dues à des casses ou bien des arrêts programmés ou non programmés. Quand les tuyaux se vident, et donc par moment, quand l'eau revient, vient comme si elle est en train de rincer aussi la conduite.
Selon ce médecin qui a requis l'anonymat, l'eau produite par la SODECI ne présente aucun risque sanitaire pour les populations. Pour preuve, aucun cas de maladie n'a été signalé en rapport avec la consommation de cette eau. Le directeur régional de la SODECI, lui, tient à rassurer les consommateurs.
Dans l'eau SODECI, bien que colorée, cette eau est toujours propre et sans danger, parce que notre eau contient, n'est-ce pas, un désinfectant. Les coupures programmées font l'objet de communication. On prévient, n'est-ce pas, les clients à travers la voie de presse, également les circulaires dans les services. Ce qui nous est reproché, c'est les coupures non programmées, notamment les incidents sur le réseau, les casses des conduites, les ruptures de conduite. Quand cela intervient, nos équipes sont toujours à pied de haut pour établir la continuité des services dans les heures qui suivent. Notre mission, c'est servir le client. C'est pourquoi on invite effectivement la population à fréquenter régulièrement nos agences.
En Côte d'Ivoire, plusieurs acteurs interviennent dans le secteur de l'eau potable, notamment l'Office national de l'eau potable. Elle a pour mission d'apporter à l'État et aux collectivités territoriales son assistance pour assurer l'accès à l'eau potable des populations sur l'ensemble du territoire. Siri Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le département d'État américain a publié hier son rapport 2017 sur le trafic d'êtres humains. Présenté par le secrétaire d'État Rex Tillerson, ce rapport dresse une liste noire des pays ne combattant pas suffisamment le trafic d'êtres humains. 23 pays figurent sur cette liste, et parmi lesquels des pays africains comme la RDC, le Congo, la Guinée ou encore le Mali. D'après le département d'État américain, pas moins de 20 millions de personnes sont victimes de trafic humain dans le monde. John Lindon a joint Brian Newbert, il est le directeur régional Afrique en charge des médias au département d'État américain.
Ce qui est l'essentiel, c'est que nous étudions les efforts, les efforts minimums dans le cadre de prévention, protection et poursuite dans cette question de traite des êtres humains. Il y a dans certains instants, certains pays du progrès, mais il faut dire également, il y a d'autres pays, donc nous voulons encourager encore du progrès, même au niveau 1. Ce n'est que le minimum d'efforts pour ce problème.
Alors, quand vous dites trafic d'êtres humains, ça renvoie à quoi?
Donc, c'est une question d'exploitation. C'est une question de si nous parlons de traite des êtres humains, il y a un élément criminel où les êtres humains sont mis dans une situation d'esclavage moderne. Et donc, ces gens-là, ça pourrait être exploitation sexuelle, ça pourrait être des ouvriers dans un contexte forcé. Malheureusement, il y a plusieurs domaines dans le monde. Il y a au moins 20 millions de victimes dans ces questions, dans plusieurs contextes. Mais à la base, c'est une question d'exploitation. Donc, il faut poursuivre les criminels qui gère ces entreprises d'exploitation. Puis il faut, bien sûr, comme je disais, protéger les victimes. Et c'est une question d'éducation, c'est une question de juridique, également de faire un effort pour la prévention également en Afrique.
Alors justement, le secrétaire d'État Rex Tillerson a évoqué le chiffre de 20 millions de personnes qui sont des victimes de trafic humain. Comment aider ces gens-là à sortir de leur réserve, à parler? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ça, cette question est absolument essentielle. Ces victimes, ils ne savent pas, dans n'importe quel pays, ça pourrait être en Afrique, ça pourrait être en Amérique du Nord, en Europe, ils ne savent pas le droit, ils ne savent pas qu'ils pourraient être sauvés, ils pourraient être protégés. Donc c'est vraiment une question d'éducation, de vulgariser ces valeurs et ces éléments pour essayer de vraiment protéger ces victimes.
C'était Brian Newbert, directeur régional Afrique chargé des médias au département d'État américain.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La population américaine est en voie de vieillissement et de diversification, selon le dernier recensement. Cette mutation est plus évidente à Houston, ville texane, qui connaît une rapide augmentation de ses communautés minoritaires. Le reportage de Raymond Taylor, présenté par Morgan Guerriec.
Autrefois connue pour sa population majoritairement blanche et hispanique, Houston revendique aujourd'hui le titre de la ville à la démographie la plus diversifiée des États-Unis. Pour beaucoup d'habitants de cette métropole autrefois connue comme un bastion des conservateurs américains, c'est une source de fierté, explique Nikki Vasquez, une habitante.
I'm Caucasian and my husband is Hispanic.
Je suis blanche et mon mari est hispanique. Nous avons deux beaux enfants métis et je pense que c'est accepté et apprécié.
Après les élections de 2016, le maire démocrate de Houston l'a proclamé ville d'accueil des immigrants et des réfugiés. Le pasteur Li Xia, d'origine chinoise, est arrivé à Houston à 7 ans. Selon lui, cette ville encerclée par la Bible Belt, la ceinture biblique, c'est-à-dire des zones peuplées de conservateurs, est devenue organiquement accueillante ces dernières années.
La Bible dit d'accueillir les immigrants, les étrangers, tout comme les réfugiés. C'est une seconde nature pour les Houstoniens. Je pense que du fait probablement de notre diversité, nous sommes plus accueillants que toute autre ville du Texas.
Le dernier recensement américain révèle un vieillissement de la population blanche à travers le pays et le comté de Harris, qui englobe Houston, n'échappe pas à la règle. Stephen Kleinberg est chercheur à l'Institut pour la recherche urbaine.
Les blancs de 63 ans ne feront pas beaucoup de bébés et vous pouvez me croire. Aucune force au monde n'empêchera Houston, le Texas ou les États-Unis d'être peuplé d'un peu plus d'Africains américains, d'Asiatiques, de Latinos et d'un peu moins de Blancs à mesure que le 21e siècle avance.
Cette évolution pèse sur la population blanche vieillissante et moins qualifiée qui voit leurs emplois disparaître. La nouvelle génération de Houstoniens semble transcender les divisions raciales pour accepter la diversité. Toutefois, dans les zones reculées et même dans certains secteurs urbains, il y a moins de brassage, ce qui pose des risques de discrimination raciale.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Joselle Morissin, à la console Aiden Outkou. Présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.